Bonjour.
Hello.
Salut Fred.
Salut tout le monde.
Enchanté de te retrouver ici avec moi pour cette nouvelle interview entrepreneur que j'organise, comme vous le savez, assez régulièrement. Mm-hmm. Je suis ravi, moi, de t'accueillir. Il faudrait juste que tu te décales un peu sur la droite parce que du coup, on te voit de profil et c'est un peu dommage. Alors, c'est toujours tourner de ma voiture parce que je considère, tu me rejoindras sur ce point, qu'un entrepreneur, ça bouge tout le temps.
Tout à fait.
Et que je me dis que ça vaut le coup, effectivement, de le faire de cette façon-là, d'une façon un peu mouvante, même si là, on est à l'arrêt parce que je me suis dit qu'avec toi, ça allait être un peu plus long vu tout le
c'est un grand bavard
tout le
bagou. Et ça va bien avec les bavards.
C'est ça, justement. Ça va bien avec les bavards. Alors la première question que je voulais te poser, alors arrête-moi si je me trompe, t'as fondé un site, un blog qui s'appelle Conseil Marketing. Dans quel but?
Alors en fait, c'était en 2006, donc ça ne nous rajeunit pas, ça fera bientôt.
Ah oui, en effet,
ans,
ça ne nous rajeunit pas.
En fait, c'était simple. J'ai travaillé dans une des startups internet dans les années 2000 avec les startups qui ont fait up et puis qui ont fait down. Et après, en fait, à un moment donné, avec des amis, on s'est dit tiens, en 2006, ça serait pas mal qu'on monte notre propre boîte. Et donc, en fait, j'étais avec deux développeurs. Et donc moi qui m'occupais du marketing, et puis on s'est dit tiens, on va lancer une nouvelle startup révolutionnaire, etc. Et puis donc on se réunissait grosso modo deux fois par semaine, un soir et une après-midi complète. Et donc on essayait de faire avancer le truc. Et moi, comme j'étais chargé du marketing, j'attendais qu'ils avancent un petit peu sur le dev. En attendant, je m'étais fait une petite checklist. Et au lieu d'envoyer, en fait à l'époque il n'y avait pas Google Drive, il n'y avait pas Google Docs, il n'y avait pas tous ces trucs là. Et en fait j'avais monté un blog pour me faire ma propre checklist. Quand je me disais tiens, quand on va lancer le site, j'aurais tout prêt et j'aurais plus qu'en fait qu'à mettre en place. Et donc j'avais tout préparé ça sur le site. Et puis finalement, au bout de, ça doit être 6 mois, le site n'a jamais vu le jour parce que tu connais un peu les développeurs.
Je connais les développeurs. C'est long, c'est toujours prêt demain et finalement c'est prêt la semaine d'après.
Je reviens en conseil finalement. Et donc en fait, à la fin, on a dit bon, on laisse tomber. Et puis donc moi, j'ai continué avec le blog et finalement, ça m'a plu pas mal. Au début, c'était vraiment une passion. C'était l'objectif d'échanger des choses et puis sur des sujets. C'était aussi un peu un moyen pour moi de m'entraîner parce que je pense que en fait le marketing, même la vie évolue tellement vite que si tu te formes pas au fur et à mesure, et ben en fait tu t'es vite dépassé. Moi je vois plein de gens qui n'ont pas bougé en marketing depuis ou qui sont pas auto-formés ou même formés en 10 ans. Ça a vachement changé, ils savent pas ce que c'est un Facebook Ads, le content marketing, ils savent pas trop, l'emailing, ils connaissent encore les basiques.
Oui, mais après, est-ce que tu peux reprocher à quelqu'un dont c'est pas le métier de ne pas avoir ces notions-là finalement de développement, marketing, etc. Aujourd'hui, moi, les chefs d'entreprise que je rencontre, les gens que je rencontre, me disent tous, ouais, mais c'est pas mon métier. Quand tu vas voir un avocat, quand tu vas voir un architecte, quand tu vas voir ce genre de personnes, tu te retrouves face à des gens qui ont pas forcément les notions que nous on a parce qu'on est dans ce domaine et parce qu'on connaît ce système qui finalement ne sont pas dans
oui,
le domaine
c'est pas
réel.
Leur corps de métier, mais moi en tant que marketeur, je vois que ça bouge énormément. Même moi, tu vois, je suis obligé de me former régulièrement. Je vois Facebook, c'est à la fois intéressant et en même temps c'est vraiment compliqué parce qu'en fait ils évoluent tellement entre les nouvelles fonctionnalités Facebook Ads, les nouvelles fonctionnalités des pages, etc. Tu es quasiment obligé tout le temps d'aller te mettre à jour tes connaissances ou au moins suivre les trucs. Moi tu vois je suis quelques sites comme ça et dis ah tiens il y a un nouveau truc sur YouTube, il y a un nouveau truc sur machin. Donc il faut, je parle à titre marketeur, de se mettre à jour régulièrement. Ça c'est important. Donc moi ça me servait aussi de mise à jour. Et après en fait au fur et à mesure, tu sais c'est practice what you preach.
Ouais.
Au bout d'un moment quand tu dis bon voilà tu vas monter un business, tu vas faire des ventes.
Alors practice what you preach pour les non anglophones signifie mets en pratique ce que tu apprends aux autres. En gros c'était un peu ça.
Exactement.
Et c'est vrai que effectivement quand on est dans ton domaine et qu'on a un blog, on donne souvent des conseils et puis quelque part est-ce qu'on les applique pour nous ou pas, ça dépend du contexte, mais c'est vrai que c'est intéressant. D'ailleurs, à ce sujet, est-ce que les conseils que tu prodigues à tes suiveurs, aux gens qui te suivent finalement, est-ce que tu as des demandes de rencontres de gens qui te disent
ouais.
Frédéric, j'aimerais bien qu'on se rencontre parce que j'ai un souci ou un autre au sein de ma boîte et que j'aimerais le développer avec toi. Comment ça se passe après? Parce que c'est bien beau d'écrire, mais j'imagine qu'au bout d'un moment, tu dois avoir des grosses demandes et un emploi du temps surchargé.
Alors, j'ai fait plusieurs systèmes. En fait, j'aime beaucoup un livre qui s'appelle La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, que je vous invite à lire tous. Hein. C'est vraiment un bouquin qui est vraiment intéressant et inspirant. Et donc, par exemple, sur mon site internet, tu vois, tu as un chat et qui n'est pas live, mais en fait, tu peux me poser des questions. Et en fait, quand tu poses des questions à ce chat-là, ça envoie un email que je reçois, que je reroute en fait à une assistante virtuelle qui est à Madagascar et en fait qui a tout un 50 pages de réponses
Ouais,
type, quoi,
d'accord.
qui envoie. Ça, c'est le
Donc ça veut dire que
niveau.
c'est pas toi qui réponds.
Alors, je réponds uniquement.
Salaud!
Non, je réponds.
Salaud!
Ah, si, parce qu'en fait, j'ai créé, en fait, c'est moi qui ai créé toutes les FAQ. Et donc, il y a toujours des demandes récurrentes, c'est comment trouver des clients, comment faire ceci, comment faire cela. C'est elle qui gère. Et ensuite, tout ce qui est demande spécifique, tout ce qu'elle ne connaît pas, elle m'envoie la réponse, elle me dit au chat que je ne peux pas répondre, et c'est moi qui réponds, et je rajoute ça dans les FAQ.
Ok.
Donc, ça, c'est grosso modo, si on veut discuter avec moi, ben, il y a le site internet, mais ce n'est pas forcément moi en automatique.
D'accord.
Ensuite, moi, je fais de temps en temps des formations, mais j'interviens plutôt en tant que formateur et speaker, mais je n'organise pas d'événements parce qu'en fait, je trouve que ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Là, par exemple, la semaine prochaine, je suis à la mairie de Courbevoie, en fait, parce que c'est pas loin de chez moi, et puis je connais en fait l'animateur. Je vais faire une formation de 2 heures gratuite sur comment trouver des clients B2B. Après aussi, j'ai des prestations payantes. Par exemple, là, il y a un comité de direction d'une entreprise du CAC 40 qui me dit, tiens, je voudrais que vous passiez former les gens de chez nous sur comment ça marche le growth hacking, parce que je viens de sortir un bouquin là-dessus. Et donc,
Le
là,
gros
je suis.
hacking, j'en parlais d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu la dernière vidéo entrepreneur que j'ai faite avec Jérémy
Ah,
Benoussa,
Jérémy, ouais.
que j'embrasse d'ailleurs, parce que je sais qu'il va regarder cette vidéo et je voudrais le saluer parce qu'il nous a beaucoup aidé. Jérémy, c'est quelqu'un que je connais, comme je disais dans la vidéo, depuis une vingtaine d'années. On a été amis d'enfance, on a été très proches pendant très longtemps. Après, nos vies se sont un peu
Les aléas
mélangées,
de la vie.
mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Effectivement, le growth hacking que je suis en train d'étudier jour après jour, c'est un truc qui est fabuleux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un système de quand je vois les astuces de growth hacking qui sont faites sur LinkedIn notamment, on en parlait hors antenne, j'ai envie de dire tout à l'heure, pour justement développer ça, c'est juste extraordinaire. C'est-à-dire que tu as des possibilités d'inviter plusieurs personnes en même temps, tu as la possibilité de transmettre un message plus facilement, c'est des astuces finalement, et ça n'a rien à voir d'ailleurs, je tiens à le préciser, ça n'a absolument rien à voir avec le
Le
hacking,
hacking, le piratage, tout
le
aussi.
piratage de certaines choses, c'est simplement des astuces, des systèmes, des astuces qui vont tout simplement ben vous permettre d'attirer plus de clients vers vous. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Frédéric, qui vont vous permettre pardon d'attirer plus de clients vers vous et qui vont vous permettre surtout d'avoir plus de visibilité sur le contenu que vous allez proposer à vos clients ou à vos lecteurs ou à vos
Ouais.
voilà si vous
Bon,
avez
en
un
fait,
blog ou si vous
tu as
avez
deux aspects en fait dans le growth hacking. Le premier aspect, c'est ce que tu as vu là, c'est toutes les astuces qui sont à la limite de la légalité où tu frôles en fait avec la légalité. Moi, par exemple, j'utilise un outil qui s'appelle LinkedIn Helper. C'est un petit outil, ça coûte 8 euros par mois. Et cet outil-là, en fait, tu utilises tu cherches par exemple directeur expérience client ou directeur marketing en LinkedIn. Et tu dis, moi, je veux les contacts secondaires qui sont à Paris. Et lui, en fait, va se charger d'inviter toutes les personnes avec un petit message personnalisé où il dira, bonjour David, je me permets de vous inviter à rejoindre les
J'ai compris,
contacts.
j'ai compris.
Et après, derrière, en fait, tu peux enchaîner vers un message automatique en disant, bah, merci d'avoir accepté ceci, cela. Et donc, c'est assez pratique. Pour LinkedIn, tu avais Hunterio qui était un très bon produit, mais qui maintenant s'est arrêté. Mais tu as AnyGrowth, tu as DataNana qui permettent ensuite d'extraire ces contacts-là. Alors après, il y a l'aspect moralité, légalité. Par exemple, avec DataNana ou AnyGrowth, ou Eneliz, hein, tu peux récupérer des emails professionnels. Est-ce que tu as le droit d'envoyer des emails à ces gens
Alors,
qui
mais
n'ont pas été sollicités?
après c'est la grosse question. Les emails non sollicités, on en reçoit tous les jours. Après, moi personnellement, un mail qui n'est pas sollicité par moi, que j'ai pas envie de voir, bah, je l'ouvre pas. Point final. Maintenant, moi, je ne serai pas le donneur de leçons qui dit n'envoyez pas de mails sollicités. Non, parce que sur un comme dirait Jean-Claude Duss, sur un malentendu, ça peut marcher et vous pouvez tomber sur un client qui a un besoin précis à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à envoyer des mails. Après, vous êtes obligé, c'est la légalité qui le veut, d'avoir un lien de désinscription sur vos newsletters. C'est pas toi qui me diras le contraire. Si vous avez un lien de désinscription, eh bien vous arrêtez d'embêter ou d'importuner la personne en question. Mais c'est pas, c'est pour moi, c'est pas, pour moi, c'est pas grave. Voilà. Après,
Ouais.
c'est mon
Après,
sentiment.
en fait, tu as plusieurs astuces. Par exemple, dans ces cas-là, quand tu as des emails de professionnels hein, que tu récupères, tu peux les retargeter sur Facebook ou Google. Donc en fait, quelque part, alors bien sûr, le taux, quand tu extrais de LinkedIn, je sais pas, 10 000 contacts, tu auras peut-être, allez, 10%, tu auras 1 000 contacts que tu peux retargeter.
Ouais, c'est ça.
C'est pas énorme, mais là, c'est tout à fait légal, tu as le droit de le faire. C'est vraiment des trucs simples qui permettent de faire ça. Après, moi, je le dis aussi, hein, dans LinkedIn, quand les gens ont accepté votre contact, vous avez juste un petit bouton à faire pour extraire les contacts. Et tu récupères les emails.
Oui, alors désormais, c'est nouveau. Maintenant, ça prend un petit. Avant, c'était plus. Sur LinkedIn, c'est
Ouais.
tout nouveau. Maintenant, tu as
Export des contacts
export. Non,
rapide.
export.
Archive.
Archive, voilà, c'est
Voilà.
ça. Export des archives, et lorsque tu exportes tes archives, je l'ai fait tout à l'heure d'ailleurs, bah, ça te permet de mettre à jour la liste que tu as déjà,
De tous
voilà,
tes
si
contacts.
t'es passé de 200 à 500, de 500 à 1000 ou de 500 à 1500, eh bien, ça te permet d'avoir ta mise à jour et de supprimer évidemment l'ancien fichier que tu avais au départ. Aujourd'hui, pour toi, est-ce que, alors, ça c'était une question qui n'était pas prévue. Au programme, mais est-ce que tu penses que Macron aujourd'hui a une bonne influence
Alors,
sur tout ce qui se passe aujourd'hui, ou est-ce que comme certains ou comme d'autres, tu attends de voir?
en fait, en tant qu'entrepreneur, parce que dans ma vie, je suis blogueur, je suis consultant et je suis également salarié, j'ai les trois activités. En tant que consultant, alors là, je suis très content parce que c'est vrai que le RSI, c'est compliqué, les taxes, sincèrement, moi, je dis toujours, entrepreneur, c'est pas, jusqu'à présent, c'était quand même maltraité. Hein. Moi, je vois
Mais parce que c'est un gros mot en France de gagner de l'argent, c'est un gros mot en France d'avoir des idées. Enfin, c'était. J'ai l'impression qu'avec Emmanuel Macron, sans donner mes préférences politiques, bon, même si je les cache pas, parce que voilà, Macron, je considère que voilà, moi déjà, ce que j'aime chez cet homme, c'est que déjà le type, il sait parler anglais, pardon. Il s'est envoyé un mail. T'écoutais Hollande parler anglais, c'était à mourir de rire. T'écoutais Sarkozy parler anglais, c'était à mourir de rire. T'écoutais Chirac parler anglais, c'était sympa, mais il manquait l'accent. Là, t'as quand même un type qui peut parler à une Merkel, qui peut parler à un Trump sans rougir de son anglais, et je trouve ça plutôt intéressant. Maintenant, voilà, c'était la parenthèse que je ferme.
Mais
Je ne veux pas
oui,
parler politique.
c'est vrai qu'au niveau en fait des entrepreneurs, c'est quand même plus intéressant. Et il y a quelques réformes sympas. Et sincèrement, je pense que c'est important parce que moi, je connais beaucoup de gens qui sont entrepreneurs et qui ont du mal à vivre
Ah bah,
correctement.
bien sûr.
Et c'est terrible parce qu'ils bossent beaucoup. Alors après, il y a une question de méthode, de motivation, etc., etc. Mais je trouve ça dommage que quand tu bosses vraiment, que tu te défonces, tu n'aies pas les récompenses en fait de ton
C'est
travail. Hein.
malheureusement le cas souvent.
Et moi, j'ai déjà eu plein de potes. Qui se retrouvaient avec une super année, puis ou 2 ans, et puis tout d'un coup le RSI qui leur réclamait 10 000 euros, 5 000 euros, qui représentaient la moitié de leur chiffre d'affaires du trimestre ou du semestre. Et là ils disaient, mais c'est pas possible, je peux pas payer. Enfin bon, s'il y avait des trucs complètement dingues. Moi j'ai réussi en fait, comme je te disais, je suis un petit peu ce qu'on appelle un slasher. Un slasher, c'est des nouvelles personnes qui ont fait plusieurs activités. Tu peux être salarié et tu
Oui,
peux être.
c'est très le slash est très courant aux États-Unis d'ailleurs,
Ouais.
où les gens ont deux, trois travails en même temps parce que ils ont besoin de ça pour tout simplement, sans avoir honte, finir leur fin de mois et boucler leur fin de mois. Et c'est vrai que parfois c'est souvent nécessaire dans le développement de son activité. Donc non, mais il y a aucun.
Mais en France, t'as beaucoup de slasheurs aussi qui sont en fait salariés et qui font un autre truc pour s'éclater. Moi, mon blog, c'est pour m'éclater. Ça me génère des revenus, certes, mais c'est pas le plus important.
Alors oui, Angèle, oui, je suis d'accord avec toi, puisque tu es là et que tu regardes cette vidéo. Mais bon, après, encore une fois, je veux absolument pas choquer qui que ce soit dans les propos que je tiens. Je dis juste que, voilà, aujourd'hui, je trouve que c'est quelqu'un qui a enlevé la vulgarité du terme entrepreneur. Ça a souvent été une insulte, entrepreneur. Aujourd'hui, ça l'est un peu moins qu'avant. C'est mon avis. Après, encore une fois, après, Macron a plein de défauts, a plein d'autres qualités, plein d'autres défauts. Je ne donne pas mon opinion politique, mais voilà, c'est ce que je pense. D'après toi, Frédéric, quels sont les outils finalement, toi, marketing, que tu recommandes pour un start-upper, une boîte qui est un peu plus ancienne, pas les institutionnels, parce que les institutionnels ont un peu plus de mal avec tous les outils marketing, mais est-ce qu'aujourd'hui, quels sont aujourd'hui, toi, les cinq outils principaux, on va
alors,
dire.
Je t'ai fait une petite liste, ouais, mais c'est vrai que, bon, alors moi, en priorité, sincèrement, je pense que c'est indispensable d'avoir donc un site WordPress. Alors pourquoi WordPress? Parce que il y a tellement de plugins, il y a tellement de thèmes, le truc est tellement pratique que ça devient indispensable. Donc WordPress, pour moi, le truc à avoir obligatoirement. En complément.
Alors WordPress, pour les néophytes, hein, juste, c'est effectivement une plateforme qui vous permet de créer votre site internet. Bon, alors il faut quelques notions quand même de programmation, parce qu'il y a, ouais, il y a quelques petites choses à se connaître, à savoir, à mettre en place. Bon, si besoin, vous appelez les bavardes, hein, on est là. mais l'idée, c'est vraiment de voilà, d'avoir un outil qui vous permet. C'est un CMS, ça s'appelle, voilà, un CMS, Content Management System. Merci beaucoup. Et du coup, voilà, ça vous permet effectivement de développer votre site internet, et je trouve que c'est important d'avoir un site internet aujourd'hui, quelle que soit votre activité. Même ceux qui disent que c'est pas important d'avoir un site internet parce qu'ils ont une activité dont ils en ont pas besoin, parce que ça marche avec le bouche à oreille, parce que ceci, parce que ceci, parce que cela, un site internet c'est indispensable, moi je vous le dis, je le pense clairement, c'est totalement indispensable.
Alors lié à ça, un plugin qui s'appelle Thrivethème, qui est en fait un outil américain qui permet de créer des pop-ups.
Thrivethème,
qui permet de créer des pop-ups, qui permet de créer très simplement en WYSIWYG des landing pages.
Alors WYSIWYG, c'est what you see is what you get. C'est ça signifie ce que vous voyez à l'écran, c'est ce que vous aurez finalement. Voilà,
c'est vraiment simple, et n'importe qui peut commencer à créer sa petite landing page, créer ce petit formulaire de pop-up, un truc qui va être joli. Et ils ont même un formulaire de quiz qui permet après de segmenter tes clients. Donc c'est un truc qui coûte $19 par mois. Sincèrement, c'est vraiment pas cher et ça permet de faire des choses sympas. En complément, ben, on parle toujours, hein, des emails. Les emails, c'est pas mort. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle GetResponse. Alors, j'ai testé MailChimp, j'ai testé Aweber, j'ai testé SG Autorépondeur, etc. Et là, maintenant, je passe sur cet outil qui est vraiment pas mal parce qu'il est pas trop cher et il a plein de fonctionnalités, donc marketing automation, envoi d'emails et tout ça. Donc, il est plutôt bien foutu. Donc, ça, c'est un outil que j'aime bien. Après, évidemment, le smartphone que moi j'utilise tout le temps, à la fois en fait pour prendre des notes, à la fois pour faire des podcasts, des livecasts comme tu le fais maintenant. Pour la génération leads, je pense que c'est vraiment essentiel de faire du Facebook Ads maintenant et de Google AdWords. Les deux en fait sont vraiment vraiment liés, sont vraiment importants.
Alors oui, je te rejoins, sauf que j'ai quand même une réserve par rapport à ce que tu dis. Ne vous lancez pas dans le Facebook Ads et ne vous lancez pas dans le Google AdWords sans avoir, et c'est pas pour promouvoir les bavards plus qu'autre chose, mais ne vous lancez pas sans faire appel à des professionnels, parce que Facebook Ads c'est bien pour une promo, pour deux promos, pour trois, mais si vous voulez faire du travail sur du long terme et faire quelque chose de précis, il vaut mieux faire appel à une agence qui ont l'habitude de travailler et qui ont ce genre de choses
en tête. Bah oui, parce qu'en fait, le truc, c'est que Facebook et Google, ils sont malins. Leurs interfaces sont vraiment simples à utiliser et tu peux dépenser vraiment beaucoup d'argent.
Oui, ça, on est bien d'accord.
Le problème, c'est d'avoir le ROI. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut bien sûr donc une belle landing page. Il faut également un bon outil de tracking des URL.
Tracking des URL, je vais traduire parce qu'il a beaucoup de termes techniques, notre ami Frédéric, et on n'a pas forcément face à nous des gens qui comprennent. Voilà, le tracking d'URL, c'est effectivement savoir d'où vient. Si vous avez un client, par exemple, qui arrive sur votre site et qui achète quelque chose, si vous voulez le tracer, c'est possible de savoir d'où il vient. Et si c'est Facebook Ads ou AdWords qui vous l'a apporté, vous pouvez le savoir parce que vous savez d'où vient le clic avec Google Analytics, que je vous conseille également d'installer, qui est gratuit d'ailleurs. Hein, Google Analytics, c'est gratuit, mais ça vous permet, voilà, de savoir d'où viennent vos clients, l'âge parfois de vos clients, je crois qu'il y a même des segmentations,
oui,
des segmentations partout, et ça vous permet effectivement d'avoir plusieurs éléments.
Ouais. Alors, en complément, moi je préfère utiliser un vrai outil de tracking comme ClickMeter ou Link Tracker qui permettent en fait de manière simple, parce que Google Analytics ça devient vraiment une usine à gaz, donc ça te permet vraiment de pouvoir traquer facilement. Tu fais un tweet, tu fais un Facebook ad, tu publies sur un groupe Facebook, tu publies sur un groupe LinkedIn, tu fais ceci, tu fais cela, tu sais en fait combien de personnes sont venues et si ça a transformé ou pas, et ce qui permet vraiment de suivre ton truc. Après, il y a un autre outil que j'adore et que moi je recommande tout le temps, c'est SEMrush. SEMrush, en fait, c'est un outil qui te permet donc de vérifier ton positionnement, qui te permet de voir quels sont les mots-clés de tes concurrents, quels sont les mots-clés qui génèrent le plus de trafic avec quelle concurrence. C'est vraiment, pour moi, cet outil-là au départ, il y a une version freemium qui est vraiment très limitée, Après, le produit coûte quand même 60 euros par mois, c'est un peu cher pour une petite boîte. Mais en tout cas, c'est vraiment un super outil. Quand on veut faire un petit audit, on prend pendant un mois, on fait son audit de référencement, on regarde ses mots-clés et tout ça. Et c'est un outil qui est vraiment, au niveau rapport qualité-prix, payez une fois un abonnement d'un mois et vous en serez vraiment content. Donc ça, c'est
Et puis
vraiment un
si ça
bon
marche, vous
outil.
paierez le second mois, comme dirait l'autre.
Ouais.
Ouais,
Alors
voilà.
après, c'est vraiment plus un outil pour les agences, hein. Faut vraiment se le
Oui,
dire.
j'ai bien compris.
C'est un petit, je trouve que c'est un petit peu cher pour rien qu'un parti. Enfin, pour la partie audit pendant un mois, c'est très bien, mais après, c'est un petit peu cher.
Bon. Aujourd'hui, selon toi, quelle est enfin, là où les meilleures boîtes qui réussissent leur marketing aujourd'hui?
Alors.
Qui sont, enfin, disons, qui sont à l'aise avec le marketing et dans lesquelles, sur lesquelles tu miserais en termes de marketing et desquelles
Ouais.
d'ailleurs tu as déjà parlé éventuellement.
Alors, moi, alors, le marketing, c'est pas forcément du digital. Et ça qui est important de se dire, c'est que tu peux très bien réussir à révolutionner un marché ou attaquer un marché en étant un peu plus, comment dire, malin que les autres. Et juste à côté, en fait, à peu près à 500 mètres d'ici, juste derrière, tu as les locaux de Michel et Augustin. Et je trouve que ça, c'est un exemple purement intéressant parce que
J'adore, je vais
ben.
même te dire, Frédéric, excuse-moi de t'avoir coupé. J'adore parce que Michel et Augustin, d'abord, c'est très bon. Non, mais enfin, faut être clair, j'adore leurs produits, d'abord. Mais ils ont créé, pour moi, un véritable entrain sur leur marque. Il y a eu quelque chose, il y a eu. C'est presque devenu nos copains, Michel et Augustin. Je sais pas si tu es d'accord
C'est la
avec moi sur ce.
proximité de la marque, ouais,
Je trouve que, voilà, quand j'achète un produit Michel et Augustin, j'ai l'impression d'acheter le produit d'un pote. J'ai pas l'impression d'acheter le produit d'une marque lambda, Lu, Palmito. J'ai l'impression d'acheter le produit d'un copain. Genre, je vais acheter le petit cookie qui m'a fait, machin. Pour moi, je trouve ça super intéressant.
Bah en fait, c'est tout le storytelling qui est là-dedans. D'ailleurs, tu le croises dans la rue, il passe de temps en temps dans le quartier. Je crois que ça est Augustin. J'ai déjà rencontré, je lui dis bonjour vite fait. Mais bon, c'est vrai que t'as du mal un peu. Je vais pas lui faire signer un autographe. Mais en tout cas.
Un selfie, c'est fini les autographes, Frédéric. C'est fini les autographes. C'est
Ouais.
l'ancien temps. C'est les selfies maintenant. Hein, c'est terminé.
Et donc oui, leur idée est vraiment bien parce que toi, si c'est un marché qui est saturé, enfin qu'on penserait saturé, les produits agroalimentaires qui sont compliqués, et pourtant ils ont réussi à être présents en grande distribution, d'être présents partout, à vendre des produits en premium, tout simplement parce que ils ont mis de l'histoire, ils ont mis du sentiment, ils ont mis de l'émotion, ils ont mis de l'humour dans des produits, et c'est un peu dingue, mais ils ont réussi à faire concurrence à des gens comme Danone et des gens comme les marques distributeurs.
Mais oui, mais parce que aujourd'hui, mais comme, enfin, aujourd'hui, quand t'as une nouvelle marque qui arrive et quand t'as des marques nouvelle génération qui arrivent, les gens ont envie ils en ont marre de, voilà, si demain, regarde BlaBlaCar, qui est pour moi l'un des meilleurs exemples que je puisse donner. BlaBlaCar est une boîte qui a aujourd'hui été rachetée, sauf erreur de ma part, par la SNCF. Mais ils ont très bien fait, la SNCF, parce que BlaBlaCar, pour l'avoir pris tout le mois d'août, en tant que conducteur, pardonnez-moi, parce que j'avais pas envie d'être tout seul en voiture et que ça, je préférais être avec du monde pour rouler. J'ai fait 1500 km avec BlaBlaCar. Je suis d'ailleurs très bien noté. Si un jour vous avez besoin de moi, eh bien, vous verrez mes trajets publiés sur BlaBlaCar. Mais voilà, c'est décidé aujourd'hui des nouvelles startups. Et c'est rien de technologique. Il a rien inventé. Il a juste mis en place un système de covoiturage. Mais il a su donner le côté affectif, le côté branding un peu cool, un peu entre copain, un peu où tu vas, on va au même endroit, bah, je t'emmène. Et ben, je trouve ça génial. Voilà, moi je trouve ce genre de concept fabuleux. Voilà.
Ouais. Donc ça, c'est une bonne marque. Après, au niveau du branding, l'onboarding process, etc., j'aime beaucoup Mailchimp, puisqu'en fait, Mailchimp, ils ont vraiment aussi humanisé leur marque. Il y a de l'émotion, ils ont le petit singe. Quand tu te connectes, tu as un accompagnement, tu as régulièrement en fait, des emails pour t'accompagner. C'est le processus d'accueil, onboarding process. Donc vraiment, Mailchimp est assez intéressant. Et je pense qu'il faut toujours essayer de prendre le meilleur dans leur domaine et essayer de dire, tiens, qu'est-ce que je peux prendre comme idée? Qu'est-ce qu'il y a comme chose intéressante là-dedans? Voilà.
Pour toi aujourd'hui, comme chacun sait, je suis évidemment entrepreneur aussi parce que j'organise des dîners entrepreneurs. Je fais un peu de promo, même si vous n'êtes pas nombreux à nous regarder tout de suite. Le prochain aura lieu bientôt. Vous regarderez sur mon mur, je l'ai publié en octobre au Spicy Home, normalement, si tout va bien. Quels seraient aujourd'hui les Allez, tes 5 conseils à un jeune entrepreneur aujourd'hui.
Alors, j'ai pris mon anti-sèche tout à l'heure, mais la première chose, en fait, c'est de parler, en fait, à ses clients, ses premiers clients. C'est souvent, en fait, le problème que je vois, moi, avec des entrepreneurs. Et il n'y a pas très longtemps, j'étais avec un de mes potes qui montait une start-up. Et ça, il avait monté son truc, il avait monté son site internet, il était en train de tout tester. Et puis, il me disait, tiens, allez, vas-y, teste ce service-là. Mais je disais, ouais, mais ça m'intéresse pas, quoi. Je suis pas dans la cible. Et il m'a dit non, mais essaye quand même. Non, mais ça m'intéressait pas. Et en fait, il a essayé. Il avait fait une solution technique, mais en fait, c'était la livraison à domicile. Hein, mais c'était pas utile, quoi. Il pensait avoir l'idée. Il y a plein de gens qui sont comme ça. Ils pensent avoir l'idée, mais en fait, c'est pas l'idée qui est importante. C'est qu'il y ait vraiment un marché. Donc, première chose, c'est ça. C'est parler avec vos premiers clients, vos premiers prospects et vérifier que c'est vraiment une bonne idée. Deuxième chose, n'hésitez pas à dépenser, allez, 250 € ou un truc comme ça, tester votre concept, votre offre avec quelques Facebook Ads pour voir si le
Alors la publicité bon. Facebook, pardon de te couper encore, la publicité Facebook, 250 €, mettez selon vos moyens. Si vous voulez mettre 50 €, mettez 50 €. L'histoire, c'est de tester 50, 100 €, 150 €. Ouais. Selon vos moyens, ne mettez pas 250 € d'un coup, mettez 50 € au départ sur les trois premiers jours.
Vous faites varier, voilà,
faites varier. Faites varier les messages également, ouais. Parce que ne mettez pas pour 250 € du même message, variez les messages. Vos produits sont les mêmes, mais les
là,
messages.
Là, tu utilises Thementrive et Google Analytics et tu fais varier comme ça ta page, tes offres.
Voilà, donc ça vous permet effectivement de varier les offres. Ouais. Autre chose
que tu... Donc ça, c'était la première chose. Parler à tes clients, tester ton offre. Quelque chose qui est important, bah, être bien sûr radin. Il faut essayer de trouver les solutions low cost. Maintenant, il y a tellement de solutions qui existent qui sont... Alors, faut pas non plus aller chercher trop low cost, parce que si tu essaies de chercher trop low cost, tu vas passer du temps, tu vas t'auto-former, tu perdras plus de temps au final. Mais il faut pas hésiter à demander des avis, des conseils et tout ça. Toi, tu es digne d'entrepreneur, c'est exactement ça. Il faut essayer de partager l'expérience, faut pas rester dedans. C'est ce que moi j'appelle l'effet tunnel, c'est-à-dire que souvent, parfois, on reste avec son idée et c'est l'idée, et je suis dessus, je suis à fond, et puis sort le produit, et puis bam, je me rends compte que bah, c'est trop tard, j'ai plus beaucoup de financement, et je me pète la gueule, c'est fini. Au contraire, il faut parler de son idée, faut être ouvert, faut en discuter. Moi, je dis toujours, l'idée ne vaut rien du tout.
Je suis totalement d'accord, j'allais te rejoindre là-dessus. Parler de votre idée, ça vous fera jamais perdre quoi que ce soit.
Ouais, y a plein parler, de gens qui disent,
mais oui,
je
mais ça sert à rien. Vous allez garder une idée pour vous et résultat, remarque, c'est bien. Il y a que vous qui la connaîtrez. L'idée, au contraire, le truc, c'est d'en parler à un maximum de personnes. Ne donnez pas, si vous créez un algorithme, l'algorithme que vous allez créer, c'est pas le but. Mais parlez de l'idée globale, parlez de ce que vous avez derrière, parlez de ce que vous allez proposer comme concept, de ce que vous allez développer comme produit, ne peut que vous donner des avis, même si vous avez des gens qui vous disent c'est nul, eh ben très bien. Vous savez, le terme c'est nul, pour moi, c'est un avis objectif. On vous dit c'est nul, très bien. Eh ben, revenez voir la personne qui vous a dit que c'était nul, avec le produit amélioré. Prenez-le comme défi. Moi, les gens qui me disent c'est nul quand je propose quelque chose, je reviens souvent voir ces gens-là, avec un truc amélioré ou un truc modifié, en leur disant, et maintenant, est-ce que tu trouves toujours ça nul? Et c'est eux qui vont finalement te dire, putain, t'as mis ça, c'est pas bête. Finalement, avec un petit ingrédient en plus, vous réussissez à faire quelque chose de vachement mieux. Je pense que Frédéric ne me...
Ouais. Et ben justement, c'est l'autre conseil. C'est encore une fois, moi, ce que j'appelle l'efficacité maximale, qu'on nomme maintenant le gross hacking. C'est-à-dire qu'en fait, n'essayez pas d'atteindre la perfection. On a le concept de MVP, produit minimum viable. Il faut réussir à faire le produit qui fera à peu près 80% des demandes avec ce que j'appelle moi la fonction qui tue. C'est-à-dire que les clients doivent acheter pour une raison ton produit. Et c'est cette fonction que tu dois faire le plus possible. Toi, il n'y a pas longtemps, moi je sors une app mobile, là, et il n'y a pas longtemps j'ai vu le
Crédit Mutuel. Fais la promo, c'est le moment. Hein.
Oui, on en parlera après. mais donc en fait, tu vois, j'ai vu le Crédit Mutuel en même temps qui sortait une application qui faisait conciergerie, qui faisait tes comptes, qui faisait rappel du machin. Ils étaient tellement pas sûrs de leur proposition de valeur qu'ils en avaient rajouté des tonnes. Il faut faire exactement le contraire. Il faut se dire, ok, j'ai une idée et j'ai un besoin que je dois répondre et je le fais le mieux possible. Et c'est ça que je vais avoir dans mon produit principal. C'est vraiment ça qui va faire, waouh, les gens vont se dire, mais c'est exactement pour ça que je vais acheter. Et essayer de faire en sorte que cette idée soit le mieux faite possible. Et après, le reste, c'est 80%, comme je dis, 80% des résultats, tu l'as en 20% du temps. Il ne faut pas chercher la perfection. La perfection, tu peux la faire améliorer au fur et à mesure. Donc, le perfectionnisme, l'effet tunnel, ça, c'est vraiment terrible parce que ça peut tuer quelqu'un. Alors qu'il faut toujours se dire, ok, aujourd'hui, quelle est l'action que je vais faire en place, que je vais mettre en place qui va me donner un max de résultats. Il y a plein de gens qui lisent leur email le matin, qui disent oh mais j'ai pas fait ce que j'ai rien fait aujourd'hui. Voilà. Ça c'est les gens qui me disent mais j'ai rien le temps de faire aujourd'hui. Ben, c'est tout simplement parce que tu es trop dispersé. Parfois il vaut mieux pas lire tes emails, commencer par faire ton truc. Tu fais ce truc là et rien que ce truc là, tu es content en fait de l'avoir fait et tu le réalises quoi. C'est ça qui est essentiel.
Alors maintenant on va parler indiscrétion, Frédéric.
Ouais, dis-moi.
Comment ça te rapporte, conseil marketing aujourd'hui?
Oh, c'est pas très compliqué comme j'ai une société. En fait, tu vas sur société.com.
Non, mais je m'en fous de société.com. Moi, je m'en fous de société.com. C'est toi que je veux savoir.
Alors, en fait, c'est simple. Tu regardes, en 2016, j'ai fait 40 000 euros de chiffre d'affaires sur cette boîte-là. Et grosso modo, je suis à 40% de taux de marge. Donc, j'ai dû me.
16 000
verser,
euros.
Ouais, après, tu as les impôts. Donc, j'ai dû me verser.
10 000.
Cette année, 11 000 et
ouais,
quelques.
C'est ça. Okay. Voilà.
Donc en fait, comme on l'a discuté avant, c'est pas non plus mon activité principale. Je suis en parallèle salarié, product manager, et donc en fait, tu vois, ça fait on va dire un quart de salaire, un quart de revenu global en plus. Donc c'est pas mal. Après non plus, j'essaye quand même de penser à ma famille, j'essaye quand même de me distraire, j'essaye de pas bosser trop. Et ça en fait, c'est pour ça que j'aime bien le livre La semaine des 4 heures, et je la recommande vraiment à tous les entrepreneurs. Parce qu'en fait, je connais trop d'entrepreneurs qui sont, qui bossent jour et nuit et qui en fait délaissent leur santé, leur vie personnelle. Il n'y a pas longtemps, je lisais une étude qui disait que travailler en ayant très peu de sommeil ou en étant vraiment crevé, c'est comme si tu allais au travail en étant bourré. C'est-à-dire que tu as les problèmes de cœur, tu as
les
problèmes
de
sucre, etc. etc. Et donc, tu as plein de gens qui sont surmenés, qui sont KO, alors que parfois, il faut essayer d'optimiser mieux son temps, déléguer, sous-traiter. Et c'est pour ça que j'aime bien la semaine de 4 heures. Et je l'encourage tous les entrepreneurs à le lire. Si vous êtes débordé, ne lisez pas le livre. Vous allez en fait sur audible.fr. C'est le service de livre audio d'Amazon et c'est gratuit, c'est-à-dire que ton premier livre est gratuit, c'est-à-dire que tu mets ton numéro de carte de crédit, tu ne seras pas débité tout de suite, tu seras débité le mois d'après, donc bien sûr, juste à la fin, tu arrêtes
évidemment.
Et tu peux le faire sur plusieurs emails. Moi maintenant, je suis abonné parce que j'aime bien ça, mais tu as le bouquin La semaine de 4 heures, tu peux l'écouter sur ton Walkman, tu peux l'écouter dans ta bagnole, etc.
Walkman! Ça c'est un ça c'est non mais
smartphone,
non mais ça c'est un mot oh, quand même
ouais,
Walkman
je vais faire passer je vais encore trahir mon âge.
Je vais pas demander d'ailleurs quel âge as-tu
je suis né en 74 donc ça me fait 43
ans. Bah, je suis un peu plus jeune que toi hein. J'ai que 40 ans
mais
moi
j'ai des cheveux gris tu vois je commence à avoir que donc oui
mais moi je m'attendais quand j'étais au téléphone je m'attendais à avoir un jeune de 25 ans.
Non 25 ans
attendez conseil marketing je dis attends le mec c'est un start-upper il a 25 ans
bah, les start-up je les ai connus à l'époque des vraies start-up en l'an 2000
et oui moi aussi le beau temps
c'était dur mais en tout cas c'était formateur et là ce que je trouve maintenant c'est qu'en fait à l'époque tu sais quand tu étais dans les start-up tu disais que moi je voyais que le temps passait genre 3 ou 4 fois plus vite dans une start-up que dans une boîte normale.
Bah oui, bien sûr.
Et là, maintenant, tu as quand même un équilibrage. Je pense qu'une start-up, maintenant, est à peu près va 2 fois plus vite qu'une boîte normale.
Bah oui.
C'est vraiment une grosse évolution.
Bon, les projets de conseil marketing dans quelques temps, quelques années, quelques mois, quelques jours.
C'est simple. Là, en fait, j'ai sorti la semaine dernière mon bouquin qui s'appelle le Growth Hacking. Parce qu'en fait,
il s'appelle comment?
Le Growth Hacking. C'est
le Growth Hacking.
Le Growth Hacking, 8 semaines pour doubler le nombre de vos prospects ou un truc comme ça. C'est une formule que j'ai testée avec, avec Facebook Ads. Et c'est celle qui a eu le plus de clics. Donc, c'est tombé là-dessus. J'aurais pu mettre 4 semaines pour tripler ton nombre de prospects, mais... C'est d'ailleurs ce qu'a fait aussi le gars qui a fait la semaine de 4 heures. Il a testé comme ça le titre de son bouquin avec une annonce Google AdWords parce qu'à l'époque, c'était que sur Google AdWords. Donc voilà, donc c'est un bouquin que j'ai écrit avec Grégoire Gambatouf, lui qui était plutôt techos, code, etc. et moi qui était plutôt la partie market un peu plus traditionnelle, content marketing. Voilà.
Ok. Bon, bah écoute, est-ce que tu veux aborder autre chose qui te plairait
moi je dis que vraiment, entreprendre, c'est vraiment important, il faut se lancer. Alors, après, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Moi, je le dis, surtout quand tu viens du monde du salariat, c'est compliqué parce que tu n'es pas habitué à bosser pour toi, à se dire, Un business, tu es là pour te faire vivre, tu n'es pas là pour être esclave de tes clients ou de ton boulot. C'est pas simple en fait de savoir ce qu'il faut gérer, etc. Moi, depuis 3 ans, j'ai pris un compte, non, 2 ans, 2 ans, 3 ans, j'ai pris un comptable parce qu'à un moment donné, je voulais tout faire moi-même. Et donc, faut vraiment apprendre à sous-traiter parce que autrement, moi j'y passais allez, une heure par semaine. Maintenant, allez, c'est même pas 1 heure par mois, 2 heures par mois, quoi. Tu vois, c'est vraiment important de faire ça. Donc, je pense qu'il faut apprendre à se lancer, il ne faut pas hésiter. Tu peux faire un projet à part en fait de ton boulot si tu es salarié. Et si tu es vraiment entrepreneur, il faut le faire quand tu es jeune. Quand tu n'as pas de gamin et tout ça, c'est vraiment idéal. Moi, tu vois, avec ma femme, à chaque fois, c'est compliqué quand elle me dit, moi je préfère que tu sois salarié, que tu aies les deux, etc. Parce que c'est plus rassurant. Et comme tu l'as dit, je pense qu'avec le gouvernement qui va changer, le fait de pouvoir avoir du chômage ou des choses comme ça quand tu es
Oui,
entrepreneur,
voilà.
ça va être comme une égalité qui est plus
Ça va être
importante.
une soupape de sécurité. Ça va être quelque chose qui va vous permettre de d'évoluer différemment. Ça va être voilà quelque chose de qui va vous permettre, oui, de vous développer effectivement.
Ouais, puis faut pas hésiter parce que sincèrement, quand tu es jeune, t'as rien à perdre. Et justement, en étant entrepreneur, en créant ta
Oui,
boîte,
mais
tu
on
vas
est jeune
pouvoir.
jusqu'à quand, Frédéric?
Ah!
Moi, je suis jeune encore.
Ouais, mais t'es. Mais en fait, à partir du moment où t'as une copine et des gamins, c'est compliqué. Moi, je sais que.
Alors quand t'as une femme et des gamins, c'est encore plus compliqué.
Ouais. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que faut que tu consacres du temps pour ta boîte, mais également pour ta famille. Et donc, c'est pas évident de pouvoir faire les deux. Voilà. Donc, moi,
Attends.
j'essaie.
Alors, il y a Angèle qui nous dit, j'adore la charte des produits aussi, néanmoins, il se donne un paquet de casseroles sociales. Question
Ah, c'était
encore une
Michel
petite boîte.
Augustin.
Et du coup, à l'heure de l'engagement. Et du coup, à l'heure de l'engagement. Ouais, après pour Michel et Augustin, je connais pas le les
La face cachée de
la
Michel
ouais la
Augustin.
face cachée de Michel et Augustin, mais c'est vrai que Angèle, après les problèmes sociaux dans les boîtes, t'en as tout le temps, quelle que soit la boîte. Après, j'aime bien leur message et on parle de marketing et pas de social,
Bah,
même
c'est comme Steve
si.
Jobs. Tu vois, Steve Jobs, c'est un mec qui est un super entrepreneur, enfin qui était un super entrepreneur, qui a essayé de faire des choses exceptionnelles, et pourtant c'était un con. Là, j'ai lu la biographie du fondateur de Tesla et SpaceX, et oh, putain, mais ce gars-là, sincèrement, mais c'est un gros salopard. C'est vraiment, pour moi,
Steve
c'est.
Jobs?
Non, pas Steve Jobs, c'est le fondateur de Tesla et SpaceX. Ah putain, en plus je l'avais là. Donc j'ai lu sa bio il y a pas longtemps. Et sincèrement, le mec il est horrible, il met la pression à tout le monde. Il est vraiment sans cœur. Ah mais c'est un mec horrible. À un moment donné, tu vois, il le comparait un petit peu à Tony Stark parce que c'était quelqu'un qui avait des idées, une vision. C'est vrai qu'il a une idée, des visions sur faire évoluer le monde, etc., etc. Et il est horrible parce qu'en fait, à un moment donné, tu vois, il y a une de ses assistantes qui était son assistante pendant 10 ans, qui a travaillé jour, nuit, week-end, parce qu'il est comme ça, il te met des délais de fou. Et donc, en fait, à un moment donné, cette nana qui était avec lui, qui gérait vraiment son agenda, c'était l'assistante personnelle, un jour, elle lui dit, ouais, j'aimerais bien avoir une augmentation de salaire et d'être payé, en fait, au même niveau de tes autres directeurs, parce que je fais un petit peu ton boulot là-dessus. Et il lui a dit, bon, ok, prends 2 semaines de vacances, et après, on verra ce qu'on peut éventuellement garder comme tâche pour
Et il
toi,
a viré.
etc. Et il l'a viré à son retour. Il lui a dit, non, mais finalement, je peux me passer de toi. Et alors qu'elle l'avait
C'est
vraiment.
drôle, mais j'en rigole, mais parce que c'est tellement pathétique que ça me fait rire.
Ben voilà, et pourtant ce mec-là, c'est un super entrepreneur, il a fait des choses exceptionnelles, tu vois, révolutionner l'industrie automobile, faire les premiers vols habités commerciaux, avoir réussi aussi à travailler dans le domaine solaire, il fait vraiment avancer l'humanité, et pourtant c'est un mec qui est un petit peu l'entrepreneur, tu vois, la face sombre de l'entrepreneur. Tu vois, les gens en moyenne, ils restent 2 ans là-bas et ils apprennent beaucoup de choses. Ils font un truc de ouf et c'est un peu comme dans une start-up. D'ailleurs, il prend que des jeunes. Il prend que des gens qui sont sortis de l'école, qui n'ont pas d'enfants parce qu'il va pouvoir
Les exploiter au
les exploiter.
maximum.
Voilà, et comme il dit, c'est comme des munitions. Et hop, mais bon, après,
Et...
c'est un système. Après, tu as d'autres boîtes comme ça. Netflix aussi, ils ont une culture qui est un peu dans le même genre. C'est une culture de la performance. Une fois que tu es plus performant, tu pars. Après. Tu peux comprendre, mais bon, c'est un peu difficile, quoi.
Alors, Donc, bah, écoute, on va arriver à la fin de cette interview, Frédéric. Ça a été un plaisir d'abord de te recevoir.
Bah, moi aussi.
J'espère que cette vidéo ira sur conseilmarketing.com.
Elle ira, bien sûr. Alors là, j'étais sur la page et je vois que ça n'a pas...
Ça n'a pas trop bougé sur ta page.
Non, ça n'a pas trop bougé sur la page. Je me mettrai sur mon profil aussi parce que généralement je fais un peu plus d'audience que ça.
Oui, moi aussi. Donc là, c'est vrai que c'était un peu difficile. Mais nous avons quand même Angèle que je veux remercier parce qu'Angèle est restée toute la vidéo. Il reste deux personnes encore qui me regardent de mon côté et zéro de ton côté. Mais ça va venir. C'est parti, c'est revenu.
De toute façon, ça sera sur YouTube, ça voilà. Sera sur mon profil de Facebook. Et bien entendu, en fait, tu vois, comme je te parle en fait du multicanal, ça va être sur mon podcast sur SoundCloud, mon podcast sur Audioboom qui est après sur iTunes. Et comme moi j'essaie de travailler en multicanal, je vais faire transcrire cette vidéo et tu vas la voir après sous la forme d'un article sur mon blog.
Ah bah écoute, ce sera un plaisir en tout cas et je te souhaite en tout cas plein de réussite pour Conseil Marketing. Je te souhaite plein de bonheur dans ta vie familiale et j'espère que Conseil Marketing sera là encore très longtemps. Je vous conseille par ailleurs d'aller donc... acheter sur Amazon le livre de Frédéric
Hacking.
Le Growth Hacking. Growth, ça s'écrit G-R-O-W-T-H, plus loin H-A-C-K-I-N-G. Oui. Voilà, donc ça s'appelle Le Growth Hacking et vous le trouverez donc sur Amazon. Je crois d'ailleurs, d'après Jérémy, la dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit qu'il était en rupture de stock.
Il était en rupture de stock et là, ils ont réapprovisionné il n'y a pas longtemps.
Eh ben voilà. Donc voilà, ben revenez, allez voir ce que fait Frédéric sur conseilmarketing.com.
Comme.fr,
voilà, je savais plus si c'était comme.fr.
Ça m'a coûté 500 euros de racheter le .com il y a 4 ans. En fait, j'avais pris au début que le .fr. Donc 500 balles pour avoir le
mais c'est pas, non mais en tout cas c'est un blog super intéressant dans lequel vous trouverez plein de choses sympas, plein de conseils, plein d'astuces, plein de trucs qui vont vous permettre effectivement de vous développer et de faire en sorte de réussir vos paris, vos projets et j'espère vraiment de tout cœur que vous irez nombreux sur ce blog.
Et puis c'est pour l'agence de com, hein, n'hésitez pas, les bavardes.com.
bavard.com, voilà, vous pouvez évidemment retrouver tout ça. Je vous souhaite en tout cas moi une excellente soirée. Mon emploi du temps est un peu compliqué, ce qui fait que j'ai